Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, pour le procureur général de la République, Andrei Babiš, contrôle toujours à Grofert. Le nombre de cas de Covid-19 a supérieur à 17 000 en Tchéquie. Et puis Prague envisage le retour du port du masque dans tous les lieux publics fermés. Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš continue d'exercer une influence décisive sur les entreprises de son groupe Agrofert. Peut-on lire dans le document justifiant une décision de justice du procureur général de la République Pavel Zeman est révélée ce mardi par le site neovlevni.cz. Le mois dernier, Pavel Zeman avait fait savoir qu'il ne ferait pas appel de la décision du Conseil régional de Bohême Centrale concernant le potentiel conflit d'intérêts du Premier ministre. L'année dernière, le Conseil régional avait invalidé la décision de la municipalité de Černošice, une commune de la banlieue de Prague, qui avait infligé au Premier ministre une amende de 7 500 €, estimant qu'il contrôlait encore de fait le groupe Agrofert qu'il a fondé, donc ses médias, et qu'il était par conséquent en situation de conflit d'intérêts. Dans le document justifiant sa décision, Pavel Zeman estime pourtant que la décision du Conseil régional de Bohême Centrale rejetant le conflit d'intérêts en question était incorrecte. Le nombre de cas de contamination au Covid-19 a passé la barre des 17 000 depuis le début de l'épidémie. Nouvelle hausse lundi après la baisse du week-end avec 210 nouveaux cas enregistrés, portant leur nombre total à 17 008 depuis le 1er mars. La Tchéquie avait dépassé les 16 000 cas dans le pays le 30 juillet. Le nombre de malades actuels tend également à augmenter. 4 914 personnes sont actuellement infectées, soit le nombre le plus important depuis début mars. 386 personnes sont décédés de la maladie et 11 708 malades ont été déclarés guéris. Selon les experts, le nombre de personnes hospitalisées nécessitant des soins intensifs n'a toutefois pas augmenté. 94 malades sont actuellement pris en charge et 19 d'entre eux sont dans un état grave. En raison de la hausse du nombre de cas de coronavirus en Tchéquie, le port du masque pourrait à nouveau être bientôt obligatoire dans tous les lieux publics fermés de la capitale tchèque, a fait savoir le maire de Prague, Zdeněk Hřib. Plutôt lundi, la directrice des services d'hygiène de la capitale avait laissé entendre que le masque pourrait à nouveau être imposé dans tous les transports en commun pragois et pas seulement dans le métro, comme c'est le cas actuellement. Une obligation qui entrerait en vigueur, je cite, « dès que la météo le permettra », soit une fois les chaleurs estivales passées, donc probablement à partir du mois de septembre. Selon la nouvelle carte de zone à risque présentée lundi par le ministère de la Santé, Prague est considérée comme verte, soit une zone où l'épidémie locale est contenue. 31 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés dans la capitale tchèque lundi. Actuelle vice-présidente de la Commission européenne chargée des valeurs et de la transparence, Věra Jourová, mise en garde contre la désinformation liée à l'épidémie de coronavirus. Dans un entretien pour le quotidien économique Hospodářské noviny, l'eurocommissaire tchèque a souligné que de nombreuses fausses informations été diffusées via Internet, comme celle affirmant que boire des produits désinfectants ou de l'alcool protégerait du virus ou que se laver les mains était inutile. Ces fake news représentent un danger pour la santé publique, estime-t-elle. Věra Jourová a tout particulièrement mis en garde contre les militants anti-vaccins qui cherchent, selon elle, à dissuader les gens de se faire vacciner contre le Covid-19 lorsqu'un vaccin sera disponible. La Norvège envisage de retirer la Tchéquie de sa liste des destinations sûres et de réintroduire une quarantaine obligatoire de 10 jours pour toutes les personnes en provenance de République tchèque. Le ministère tchèque des Affaires étrangères a confirmé l'information parue dans la presse norvégienne ce lundi, précisant que l'Institut de santé publique norvégien avait recommandé cette mesure et que le ministre de la Santé locale prendrait une décision vendredi. Un mot d'économie, le taux de chômage en Tchéquie est passé de 3,7 à 3,8% en juillet, a fait savoir lundi le ministère du Travail et des Affaires sociales. 278 824 personnes étaient sans emploi à la fin du mois écoulé. En dépit de cette nouvelle hausse, ce taux reste l'un des plus faibles de l'Union européenne. On termine par un mot de météo. Mercredi, jour de fête des Christianes, on dira bye bye à la grisaille et bonjour au soleil. Les températures seront en hausse avec 23 degrés pour les moyenne maximale. Le thermomètre continuera de grimper les jours suivants avec le retour de fortes chaleurs autour de 30 degrés en fin de semaine. C'est la fin de ce bulletin d'information. La suite du programme, c'est avec Magdalena Rosinkova. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour, merci à vous Anna Kubiszta pour ce bulletin d'information. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à l'écoute de ce programme de Radio Prague International en français. Le ministère de la Santé a présenté une nouvelle carte des régions tchèques selon le risque de contamination au coronavirus. Nous vous en dirons plus avant de vous présenter le designer sonore tchèque Juraj Mravec. Son travail sur la série The Crown lui a valu une nomination au prestigieux Emmy Awards. Vous l'entendrez dans la seconde partie de cette émission. Très bonne écoute à toutes et à tous. Le ministère de la Santé a présenté lundi une nouvelle carte identifiant le risque de Covid-19 dans différents districts de la République tchèque. Selon cette nouvelle carte, Prague et 8 autres districts sont actuellement considérés comme des zones vertes où l'épidémie locale est contenue, tandis que le reste du pays en blanc affiche un risque minimal. Même si le bilan journalier de nouvelles contaminations est en hausse depuis plusieurs semaines et le nombre de cas actifs est actuellement le plus important depuis le début de l'épidémie en mars dernier, le gouvernement et les autorités sanitaires se veulent rassurants. On écoute Ladislav Dušek, directeur de l'Institut d'information et de statistiques médicales.
La situation épidémiologique dans le pays est très bonne. Le nombre de cas actifs n'est pas vraiment inquiétant car ces gens-là sont isolés. Ce qui est important maintenant, c'est la bonne stratégie de dépistage. Je crois que nous réussissons à identifier rapidement les foyers locaux, comme cela a été le cas récemment dans la région de Vysočina ou dans le district de Prachatice. Dans ces clusters, les malades sont pour la plupart asymptomatiques ou alors ils présentent des symptômes légers. Les patients dans un état plus grave qui ont été hospitalisés ces derniers jours avaient tous d'autres problèmes de santé. Ce qui est important, c'est que les soins intensifs des hôpitaux ne sont pas confrontés à un afflux de cas sérieux. Nous vivons la même situation que les autres pays européens. Il ne se passe rien d'exceptionnel en République tchèque.
Toutefois, de nombreux Tchèques se plaignent de la capacité insuffisante des laboratoires, de la lenteur des tests et du traçage du coronavirus par les services d'hygiène. Plusieurs cas de personnes contaminées, contraintes de rechercher et de prévenir elles-mêmes leurs contacts, ont été relayés ces derniers jours par les médias. Il existe actuellement 106 laboratoires tchèques, publics et privés, autorisés à effectuer des tests de dépistage du coronavirus. Celui de l'hôpital pragois Nabulovce est le plus fréquenté de la capitale. Notre personnel travaille de manière intensive tous les jours, y compris les week-ends. Nous remercions les étudiants des facultés de médecine qui nous aident à effectuer ce nombre énorme de prélèvements, a écrit l'hôpital sur son compte Twitter après avoir testé 500 personnes au cours de la seule journée de lundi. Un autre laboratoire qui connaît une montée en puissance avec les départs et retours de vacances est celui situé à l'aéroport Václav Havel entre les terminaux 1 et 2. Les tests y sont effectués 20 heures par jour, de longues queues s'y forment après les arrivées des avions.
Je croyais que j'allais être obligée de passer un test étant donné que je rentre des États-Unis, mais c'est avéré que non. Je vais être testée quand même, je vais voir mes proches dans une maison de retraite, alors je le fais par précaution.
Katerina, interrogée par la radio tchèque, a passé un test PCR classique dont le prix a été plafonné par l'État à 1750 couronnes, environ 66 euros, et le résultat est connu dans un délai de 12 à 48 heures. Ceux qui sont plus impatients peuvent se faire tester à l'aéroport de Prague pour 7500 couronnes, un peu plus de 280 euros. Le test express est alors évalué dans les 3 heures qui suivent le prélèvement. Quant à la nouvelle carte des régions tchèques, selon le risque de contamination, elle sera mise à jour chaque semaine par le ministère de la Santé. Et des mesures de santé spécifiques décidées par des autorités locales seront ensuite appliquées selon l'évolution de la situation. Pour sa part, Prague prépare le retour du port du masque dans tous les lieux publics fermés. This country was still great when I came to the throne. All that's happened on my watch is the place has fallen apart. You cannot flinch. It's only fallen apart if we say it has. Des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans le monde ont déjà pu apprécier le travail du designer sonore tchèque Juraj Mravec. À 43 ans, il a déjà travaillé sur une longue liste de séries à succès dont The Crown, Whip, Black Mirror et Peaky Blinders. La semaine dernière, son travail sur The Crown lui a même valu une nomination au prestigieux Emmy Awards. C'est le panorama du jour.
Panorama.
Panorama.
Juraj Mravec, quelles qualités sont-elles requises pour être un bon designer sonore?
You need to be able to listen, but I don't know, I'm not sure like if there is anything such as
Je dirais que vous devez être capable d'écouter, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait quelque chose comme un talent pour le son. Je pense qu'il s'agit davantage d'être impliqué dans le film et d'être capable de travailler avec le matériel, de suivre l'histoire d'un film. Ça, c'est assez crucial. Et puis, évidemment, oui, vous devez avoir une audition raisonnablement, disons, sophistiquée. Mais je pense que beaucoup de cela vient avec la pratique. Vous pouvez vraiment beaucoup entraîner vos oreilles.
Practice, like you can really train your ears up quite a lot.
Sur votre entrée IMDb, vous êtes répertorié comme un monteur d'effets sonores, un bruiteur, un monteur des post-synchros. Que faites-vous exactement?
These are like all basically like sub-professions of a sound designer.
Ce sont tous des sous-métiers d'un designer sonore sur un film ou une émission de télévision. Si vous regardez ce qui se passe avec la façon dont une bande-son est produite, alors vous commencez évidemment sur le plateau, vous commencez par l'enregistrement et vous avez une personne qui fait cela. C'est une profession et fondamentalement, en particulier au Royaume-Uni et aux États-Unis, ce sont des gens qui font exactement cela. Ils ne travaillent pas en studio, ils sont juste sur le plateau, on les appelle des mixeurs sonores de production. Et puis, vous entrez dans la post-production. Lorsque vous préparez tous les sons, lorsque vous les montez, les enregistrez, vous devez les trouver quelque part. Et ça, c'est la partie dans laquelle je suis impliqué. Il y a plusieurs sous-professions là-dedans. Il faut enregistrer des dialogues avec les acteurs parce que certains dialogues ont peut-être manqué sur le plateau ou alors le plateau était bruyant et il n'était tout simplement pas possible de tout enregistrer ou le réalisateur voulait enregistrer une nouvelle réplique. Ça, c'est ce que fait un monteur des post-synchros. Certains sons manquent et seront réalisés par un monteur d'effets sonores. Il fonctionne avec d'énormes bases de données de sons. Et vous pouvez sortir et enregistrer des effets sonores tels que les atmosphères d'un lieu ou les sons d'une voiture qui passe, par exemple. Et un éditeur d'effets sonores les collectera et les éditera, les montera, travaillera avec eux et les incorporera à l'image. Ensuite, il y a cette belle chose appelée bruiteur qui consiste essentiellement en des sons enregistrés dans un studio en synchronisation avec l'image. Par exemple, il y a une scène où quelqu'un entre dans un resto et des verres sont servis. Vous avez en fait des verres dans un studio et vous les posez sur la table. Les bruiteurs le font en phase avec ce qui se passe dans la scène. Ils peuvent aussi faire des bruits de pas, par exemple. Et vous avez des éditeurs de dialogue, des monteurs de dialogue qui coupent juste le dialogue et le nettoient. C'est assez incroyable ce qu'ils peuvent faire de nos jours. Et puis, vous avez le monteur qui mélange tous ces sons ensemble. It's amazing what they can do these days. And then you have the mixer who then mixes all these sounds together.
En général, êtes-vous sur le plateau pour le tournage d'une série télévisée, par exemple?
Moi, je travaille comme éditeur d'effets sonores, monteur d'effets sonores, comme superviseur sonore, ce qui signifie que je suis responsable de toute la partie de l'édition de tous les sons. Donc, je ne suis pas sur le plateau. C'est le mixeur de sons de production qui enregistre les sons sur le plateau. Mais s'il se passe quelque chose de tout à fait spécial sur ce plateau, quelque chose dont nous savons dès le départ qu'il sera très difficile d'obtenir des sons de base de données ou simplement de recréer un son spécifique, eh bien nous irons en tant que deuxième équipe sur l'ensemble pour tenter d'enregistrer la chose en question. Ça peut être le cas, par exemple, pour des anciennes voitures, des voitures de collection. S'il se passe quelque chose pendant la Deuxième Guerre mondiale et que vous avez tout cet équipement sur le plateau, alors j'espère que vous serez en mesure de négocier avec la production, qu'elle vous laissera passer une demi-journée, voire une journée sur le plateau, quelque part légèrement sur le côté, pour être capable d'enregistrer toutes ces choses, parce que c'est évidemment très précieux. Donc je vais aller sur le plateau avec cet objectif pour capter divers sons, mais pas réellement pour les enregistrements des acteurs et de l'action, ça c'est quelqu'un d'autre qui le fera.
Votre liste de crédits au générique est incroyablement longue. Je pense en avoir vu quelque chose comme une centaine sur IMDb. Y a-t-il des projets sur lesquels vous avez travaillé et dont vous êtes particulièrement fier?
I think the project which I liked the most was The Crown because
Je pense que le projet que j'ai le plus aimé était The Crown, pour lequel j'ai été nommé aux Emmy. Un projet qui était mon genre de spectacle, je suppose. Ce n'est pas comme si je disais que c'était mieux ou pire qu'autre chose. J'ai vraiment aimé travailler là-dessus. C'était un très bon scénario, une très bonne histoire. Et ça continue, en fait. J'ai vraiment apprécié ça. Je l'ai aimé pour l'histoire et pour ce que c'est. Je l'ai aussi aimé pour les possibilités que nous avions avec le son, parce qu'il y avait tellement d'attention accordée aux détails, comme il y en avait dans tous les autres éléments de l'ensemble du spectacle, des costumes à la caméra, que c'était vraiment difficile, mais en même temps vraiment gratifiant. En République tchèque, je peux dire que j'ai vraiment apprécié de travailler sur le long-métrage « Kuki se vrací » de Jan Svirak, le projet le plus amusant auquel j'ai participé.
Je suppose que si vous travaillez sur quelque chose comme The Crown, c'est un succès mondial. C'est l'une des plus grandes séries de l'année dans le monde, non?
I think in certain aspects they are. In certain aspects, less so.
C'est le cas et c'était déjà le cas à l'époque quand il est sorti. C'était le show numéro 1 de Netflix. Il n'avait jamais dépensé autant d'argent pour une émission. Depuis, oui, mais à l'époque, c'était le plus gros budget qu'ils aient jamais eu pour une série télévisée. Et oui, heureusement, ce fut un grand succès.
That also has a substantial impact and the attention all the projects get from the producers is massive.
Tout le monde dit qu'il y a un niveau très élevé de normes techniques en République tchèque en matière de réalisation de films. Et c'est pourquoi tant d'équipes étrangères viennent ici. Mais quand vous travaillez ici et que vous travaillez à Londres ou peut-être aux États-Unis, comment cela se compare-t-il en réalité? Les normes sont-elles comparables ici et là-bas?
I think in certain aspects they are. In certain aspects, less so.
Je pense que dans certains aspects, ils sont comparables. Dans certains autres aspects, peut-être moins. La raison pour laquelle des cinéastes étrangers viennent ici à Prague, c'est pour le tournage, pour la production réelle sur le plateau. Je pense que c'est parce qu'évidemment, ils peuvent obtenir de très bons prix, mais aussi parce que les équipes sont assez formidables ici. Et comme vous l'avez dit, ils ont une bonne expertise technique. Je pense donc que les gens qui travaillent sur le plateau sont vraiment très bons. Ensuite, quand vous passez à la post-production, ce que j'ai pu voir, c'est qu'un métier comme la conception sonore, mon domaine, en termes de post-production sonore, c'est bien différent, je dois dire, à Londres ou à Los Angeles. C'est en fait la principale raison pour laquelle j'y suis allé il y a environ 10 ans, avant de déménager à Londres. La grande question pour moi, c'était comment se fait-il que ces films américains et britanniques ont un son aussi bon ? Quand je vais au cinéma, ils ont un son incroyable. Nous passons tout ce temps à travailler sur ce film tchèque et ça sonne bien. Mais vous percevez bien que ce n'est pas la même chose. Donc j'étais vraiment intrigué par cette question et je voulais vraiment aller au fond des choses en quelque sorte. Je pensais que la seule façon de le savoir, c'était de déménager là-bas, en gros, et de faire partie des équipes. Il m'a fallu un certain temps pour le découvrir. Mais je pense que la raison principale et l'une des choses que j'ai observées est qu'il existe un moyen de s'occuper réellement du métier qu'on fait et de le transmettre aux jeunes, ce qui n'est pas le cas en République tchèque avec le son. Par exemple, ici, vous faites partie d'une équipe et tout le monde apprend par lui-même. C'est assez excitant parce que vous devez comprendre vous-même et vous faites des erreurs et vous en tirez vous-même des leçons. Et cela vous prend quelques années, mais vous y arrivez. Cela ne se passe pas vraiment comme ça à Londres. Vous devez essentiellement aider quelqu'un pendant quelques années et vous devez apprendre les choses comme ils les font. Cela peut être assez éprouvant parfois, assez difficile et même assez déprimant quelquefois, mais cela vous permet vraiment très rapidement d'acquérir un savoir-faire. Une autre chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a en quelque sorte plus de concurrence entre les gens là-bas. Je ne sais pas pourquoi, nous avons toujours des gens qui viennent en studio pour demander un job. Les gens sont prêts à commencer à la position, au poste le plus bas possible, alors qu'ici, on peut même manquer de gens. Il est parfois difficile de trouver des personnes pour gérer des projets. C'est autre chose. Et puis, Je pense bien sûr que les chefs de l'industrie et les budgets sont bien différents là-bas. Cela a évidemment un impact considérable et l'attention portée à tous les projets par les producteurs est énorme.
Dans les films tchèques, on a souvent l'impression que les acteurs se sont doublés plus tard, ce qui est fait également ailleurs. Mais est-il vrai que cela se fait plus dans l'industrie cinématographique tchèque, ou est-ce que c'est moins bien fait et c'est plus évident? Parfois, cela semble trop évident.
Hélas, je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas plus fait que sur les films britanniques ou américains, c'est juste que ce n'est pas aussi bien fait. La raison est simple. Et il y a plusieurs explications à cela. Une partie est en fait la compétence, pour être honnête, des designers sonores. C'est fait un peu différemment ici qu'à Londres. Il y a plus de personnes impliquées à Londres, plus de personnes qui supervisent, et ça aide évidemment. Et il y a une certaine méthode qui est légèrement différente, ce qui aide aussi. Une autre chose qui, à mon avis, n'aide vraiment pas les films tchèques, les voix et revoicing, comme on appelle ça, c'est qu'il y a beaucoup de versions tchèques de tous les films étrangers. La plupart des acteurs tchèques font cela pour gagner leur vie, du doublage, et je pense que cela leur fait du tort. Les British et American actors n'ont jamais eu l'opportunité
de faire ça, ce qui est probablement une bonne chose. Il s'articule trop et ce n'est plus naturel du coup.
Non, c'est une question de vitesse en fait. Ils doivent faire un film en entier en quelques heures et à l'exception peut-être de certains films d'animation pour le cinéma où c'est vraiment une configuration appropriée, ils ont du temps pour le faire, sinon ils sont pressés. Avec toutes ces séries qui sont doublées pour la télévision en tchèque, ils doivent le faire très rapidement. Alors ils lisent essentiellement le script avec un peu de jeu et la synchronisation n'est pas vraiment là parce que ça ne peut pas se faire, parce que c'est une langue différente et il y a un certain ton dans leur voix quand ils font cela. Je pense que cela reste avec eux pour la post-synchronisation de leur propre film. Je trouve incroyablement difficile de les sortir de cette situation. Les acteurs britanniques et américains n'ont jamais eu l'occasion de le faire, ce qui est probablement une bonne chose.
Ce doublage d'acteurs de leur propre voix au Royaume-Uni et aux États-Unis est-il très fréquent? Si je regarde un épisode de Whip ou de quelque chose comme ça, quelle quantité est enregistrée authentiquement sur le plateau et quelle quantité est ajoutée plus tard ou modifiée plus tard?
Bien sûr, c'est différent pour chaque film, mais je dirais qu'environ 80% est le dialogue original et entre 15 et 20% environ est refait. De toute évidence, nous essayons d'utiliser le moins possible les éléments réenregistrés parce que c'est incroyablement difficile de recréer une performance en studio lorsqu'elle s'est produite pour la première fois sur le plateau avec, disons, 100 personnes autour en réalité. L'atmosphère, l'environnement, c'est tout simplement très différent. 100 people around there and like
in the actual environment, it's just different. Devez-vous prendre soin de vos oreilles?
Yeah, I do, to an extent, because it's a long career and they're long.
Oui, je le fais dans une certaine mesure, car c'est une longue carrière et il y a de longues journées de travail. Quand vous mixez, et surtout quand c'est pour le cinéma, mais même pour la télévision, aujourd'hui, vous travaillez à des niveaux sonores assez forts. La journée peut durer 8, 9 heures, mais aussi 10, voire 12 heures s'il le faut. Et les oreilles se fatiguent vraiment. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, mais par exemple, je n'écoute rien au casque à la fin de la journée. Quand je rentre à pied ou que je marche dans la rue, j'écoute seulement la rue. J'aime vraiment écouter l'atmosphère du monde qui m'entoure. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas dans des endroits très bruyants comme dans des concerts ou dans des boîtes de nuit. Plus maintenant, en tout cas, juste parce que c'est trop pour mes oreilles. Cela m'est arrivé même quelques fois de changer de bar parce que c'était trop fort avec la musique et tout. Et en fait, aujourd'hui, il y a ces boules caisses très intelligentes qui sont faites comme un moule spécialement pour votre oreille. C'est comme une empreinte de votre oreille et vous la mettez à l'intérieur de votre oreille. Elle s'adapte vraiment bien. Ça réduit le niveau du son de 15 décibels ou de quelque chose comme ça. En théorie, ça devrait être le même son que 100. Ce n'est pas exactement le cas, mais c'est en fait assez bon. Donc j'ai ça, juste au cas où je sais que je vais être dans un endroit très bruyant. Je les ai à disposition. Vous pouvez même les utiliser pendant un mixage. Si quelqu'un d'autre sur la scène du mixage passe une séquence très bruyante, répétée à de nombreuses reprises. Alors oui, je fais ces choses. Vous devez en quelque sorte le faire pour garder vos oreilles au frais. In order to
keep your ears fresh. Yura Imravets, merci pour cette interview. C'est la fin de cette émission qui vous a été présentée par Magdalena Hrozinkova, réalisation Dagmar Hlitkova et Pavel Cajon. On se retrouve demain. D'ici là, une seule adresse, radio.cz/fr, où vous pouvez lire et écouter tous nos reportages et entretiens. Nous vous invitons également à suivre nos réseaux sociaux. Portez-vous bien. Naslyšenou.